Chapitre 12. Les dernières 24 heures ont été témoins d'un déchaînement de cruauté. On dirait que de la proue à la poupe, elle a couru et s'est répandue comme une maladie contagieuse. Je sais à peine par où commencer mon récit. C'est l'exemple de Lou Larsen qui gangrène tous ceux que porte ce bateau. Ce n'est de l'un à l'autre que haine, querelle et rancune, et les passions mauvaises s'enflamment pour rien, comme l'herbe sèche des prairies. Thomas Mugridge est non seulement un trouilleur, mais un espion et un mouchard. C'est lui qui, pour regagner les bonnes grâces du capitaine, a dénoncé les hommes de l'avant. Il a également rapporté à Lou Larsen certains propos particulièrement violents émis par Johnson. Voici l'affaire. Johnson a, paraît-il, acheté un ciré à la soute au hard, et il l'a trouvé de qualité nettement inférieure. Il ne s'est pas gêné, selon sa coutume, pour dire tout haut ce qu'il en pensait. La soute au hard est en miniature une sorte de magasin de confection qui existe sur toutes les goélettes fauquières et qui contient divers articles à l'usage des hommes du bord. Le montant de leurs achats est retenu ultérieurement sur les gains réalisés par eux dans les zones de chasse. Les chasseurs, en effet, de même que les rameurs et les hommes de bar, au lieu d'un salaire fixe, reçoivent alors tant par peau capturée par leur bateau. J'ignorais le mécontentement de Johnson à propos de son ciré et les réflexions dont il l'avait assaisonné. Aussi ne m'attendais-je nullement à la scène terrible dont je fus témoin. Je venais d'achever de balayer la cabine de Lou Larsen, qui m'avait entraîné dans une discussion sur Hamlet, le personnage shakespearien qu'il préfère, pour son pessimisme forcené, j'imagine. Là-dessus, Johnson, flanqué du second, Johansen, descendit l'escalier du carré. Selon la coutume maritime, Johnson ôta son béret et se tint dans une attitude respectueuse au milieu de la cabine. Il se balançait lourdement au roulis de la goélette, afin de conserver son équilibre, et faisait face au capitaine. « Fermez la porte et tirez le verrou !» me commanda Lou Larsen. J'obéis et remarquai sans en comprendre la cause la lueur d'inquiétude qui passait dans les yeux de Johnson. Mais lui savait ce qu'il attendait, et faisait front courageusement. Il y avait dans l'acte de cet homme simple plus de noblesse et de grandeur morale que dans tout Lou Larsen. Johnson avait des principes de droiture et de franchise. Il était prêt à souffrir pour eux tout ce qu'il faudrait, et l'esprit chez lui dominait la chair. Je remarquai donc l'éclair de panique que trahissait le regard de Johnson, mais je le pris pour le résultat de sa timidité et de l'embarras tout naturel qu'il ressentait devant son supérieur. Johansen s'écarta de quelques pas et Lou Larsen s'assit sur un fauteuil à pivot devant le matelot. Un silence impressionnant tomba lorsque j'eus fermé la porte et tiré le verrou. Il dura une bonne minute et ce fut Lou Larsen qui le rompit. « Johnson, » commença-t-il. « Je me nomme Johnson. »« Va pour Johnson. Qu'est-ce que ça peut foutre? Est-ce que tu devines pourquoi je t'ai fait venir ?»«
Oui et non, capitaine, » répondit-il lentement. Je m'acquitte consciencieusement de mon travail.
Le second le sait aussi bien que vous, capitaine. Je ne vois pas de quoi vous avez à vous plaindre à ce sujet.
Est-ce tout ? Demanda Lou Larsen d'une voix douce, basse et ronronnante.
Je sais, continua Johnson avec sa même lenteur et pondération, que vous avez une dent contre moi. Vous ne pouvez pas m'encaisser. Vous
« Continue, » souffla Larsen, « n'aie pas peur de m'offenser. »
Je vis sous l'insolence mal dissimulée de Lou Larsen l'homme rougir légèrement sous son hâle.
« Je n'ai pas peur, » dit-il. « Si je m'exprime mal, c'est parce que j'ai quitté mon pays depuis aussi longtemps que vous, au moins. Je voulais dire que vous ne m'encaissez pas parce que j'ai trop le sentiment de ma dignité d'homme. « Voilà la raison, capitaine. »«
Ce qui signifie, si je comprends bien, que tu ne sais pas suffisamment plier pour te soumettre à la discipline d'un bateau ?»«
Si vous voulez. Ce n'est pas exactement ça, mais les mots précis me manquent pour m'exprimer. » Et il rougit davantage comme honteux de son infériorité intellectuelle. Johnson, reprit Lou Larsen, en écartant brusquement tous ses préliminaires pour en venir au sujet principal. « On m'a raconté que tu n'es pas satisfait de ton ciré. »
C'est la vérité. Il ne vaut rien.
Et tu es allé le dire à tout le monde.
Je dis ce que je pense, capitaine. C'est mon habitude, affirma Johnson avec courtoisie mais fermeté.
À ce moment, mes yeux tombèrent par hasard sur Johansen. Il serrait et desserrait alternativement ses gros poings. Son regard, qui ne quittait pas Johnson, était haineux. Sous son œil, une trace noire imperceptible était visible. Elle provenait d'une correction que, quelques soirs auparavant, il avait reçue du matelot. Et je commençais à comprendre qu'une tempête terrible allait se déchaîner.
« Tu sais ce qui arrive à ceux qui osent dire de moi et de mon magasin ce que tu en as dit ?»
interrogea Lou Larsen.
« Je le sais, capitaine.
Et qu'est-ce que c'est ?» reprit Lou Larsen, dont la voix était devenue impérative et dure.
« C'est ce que vous avez l'intention de me faire subir. »
Lou Larsen se tourna vers moi.
« Regardez-le, Hump !» s'écria-t-il. « Regardez ce grain de poussière, ce conglomérat de matière, qui se croit d'une essence supérieure. Il a l'esprit imprégné d'un tas d'idioties telles que la morale et le droit, et il prétend vivre en conformité de ses principes, même s'il doit lui en cuire.
Hump, que pensez-vous de lui ?»«
Je pense qu'il vaut mieux que vous, » répondis-je, espérant détourner sur moi une part de la fureur redoutable que je sentais prête à fondre sur le pauvre diable.
Avec ce que vous appelez ses idioties, il a un idéal que vous n'avez pas, et il en est plus riche que vous. En face de lui, vous êtes un pauvre.
Exact, très exact, riposta Lou Larsen. Je ne me perds pas dans les nuées. Je pense avec l'Ecclésiaste, vous le savez, qu'un chien galeux vivant est supérieur à un lion mort. Ma doctrine est de survivre, à n'importe quel prix, aux embûches de la vie.
Ce bout de ferment, au contraire, que vous appelez Johnson, à quoi sa noblesse morale, dont il est si fier, le conduira-t-elle? À n'être plus que poussière et cendre. Alors que moi, je serai toujours vivant.
« Savez-vous ce que je vais faire de lui ?»
Je secouai la tête.
« Eh bien, je vais user de la prérogative que j'ai sur ce bateau. Vous allez m'entendre gueuler, et vous verrez comment se comporte la noblesse morale de cet imbécile. »
Ce disant, Lou Larsen quitta son fauteuil d'un bond, tel un tigre, et couvrit le temps d'un éclair la courte distance qui le séparait de Johnson. Johnson essaya vainement d'éviter cette furieuse avalanche. Il abaissa une main pour protéger son estomac et leva l'autre pour défendre sa tête. Mais le poing de Lou Larsen passa entre les deux bras et s'abattit sur le thorax du matelot qu'il frappa d'un coup terrible. La respiration de Johnson fut coupée nette et ce qui lui restait de souffle fusa entre ses lèvres avec un sifflement pareil à celui qu'émet un homme en train de manier une hache. Il fut presque renversé et oscilla de droite et de gauche en cherchant son équilibre. Comment décrire en détail la scène odieuse qui s'ensuivit? Aujourd'hui encore, je suis malade à ce souvenir. Johnson se défendit courageusement. Mais que pouvait-il contre Lou Larsen et Johansen réunis contre lui? Ce fut vraiment épouvantable. Je n'aurais jamais cru qu'un être humain soit capable d'encaisser tous les coups que recevait Johnson, et malgré tout, de continuer à se battre. De toute évidence, il n'avait pas la plus petite chance de vaincre, mais par dignité, il tenait bon quand même. Ce que je voyais était trop pour moi, et je sentais vaciller ma raison. Je courus vers l'escalier pour fuir ce spectacle et me sauver sur le pont. Mais Lou Larsen devina ma pensée. Quittant un instant sa victime, il fit un de ses terribles bonds dans ma direction et me repoussa violemment dans l'angle opposé de la cabine. « Restez, Hump !» ricana-t-il. « Restez et regardez. Vous allez recueillir de nouvelles et précieuses données sur le phénomène de la vie et sur l'immortalité de l'âme. Nous ne pouvons causer aucun dommage à l'âme de Johnson, vous le savez comme moi. C'est seulement sa forme transitoire que nous tentons de démolir. »
La bague a repris ensuite de plus belle. Elle dura bien 10 minutes encore, qui me parurent des siècles. Lou Larsen, le second, s'acharnait sur le matelot. Il le frappait des poings, lui assénait des coups répétés de leurs lourdes chaussures, le projetait à terre, puis le remettait debout pour l'envoyer s'étaler une nouvelle fois de tout son long. Johnson, totalement aveuglé, ne voyait plus rien autour de lui. Le sang lui coulait du nez, de la bouche et des oreilles. La cabine était transformée en abattoir. Et quand il lui fut impossible de se tenir sur ses pieds, les deux hommes continuèrent à le frapper des pieds et des poings sur le plancher où il gisait.
« Doucement, Johansson !» se décida à dire enfin Lou Larsen. « Ça suffit !»
Mais la bête était déchaînée chez le second, qui ne s'arrêtait pas. Lou Larsen dut le repousser du revers de son bras. Ce geste assez bénin en apparence le rejeta en arrière, si rudement, que la tête de Johansson alla frapper la cloison comme un bouchon. Puis il m'ordonna.
« Ouvrez, Hump, ouvrez tout grand !»
J'obéis. Et les deux hommes, ayant ramassé Johnson, aussi inerte qu'un sac de chiffon, le balancèrent, puis par l'escalier le jetèrent sur le pont. Il alla s'écrouler devant l'homme de bar, qui n'était autre que Louis, son camarade de canot. Le sang, qui lui jaillissait du nez comme un ruisseau écarlate, se mit à couler sur le pied du matelot. Mais Louis continua flegmatiquement sa besogne sans quitter des yeux l'habitacle. À l'étonnement de tous, la conduite de George Leach fut différente. De sa propre initiative, il alla vers Johnson, le traîna à l'avant du navire et de son mieux se mit à panser ses plaies. Quant à Johnson, il était méconnaissable. Ses traits décolorés et bouffis n'avaient plus rien d'humain. Lorsque j'eus achevé de remettre de l'ordre dans la cabine qui avait été le théâtre du drame, je me hâtai de remonter sur le pont pour respirer un peu d'air frais et retrouver un peu de calme. Leach avait terminé ses pansements. Lou Larsen fumait son éternel cigare en examinant le loch remorqué par le fantôme et qui avait été halé à bord. Soudain, la voix de Leach parvint à mes oreilles, rauque et irritée, d'une rage qu'il ne pouvait contenir. Je me retournai et vis l'ancien mousse à l'arrière face à Lou Larsen. Son visage était pâle et tout convulsé, ses yeux flamboyants, et il tenait levé ses poings crispés au-dessus de sa tête.
« Que Dieu te damne, Lou Larsen, et te précipite en enfer! Mais l'enfer est encore trop bon pour toi, espèce de lâche, assassin, triple fumier !»
C'était le salut qu'il adressait au capitaine. J'étais estomaqué d'une telle audace, et je m'attendais à voir Leach anéanti dans l'instant. Mais indifférent à l'insulte, Lou Larsen fit quelques pas, et appuyant avec nonchalance son coude sur un capot, il toisa pensivement le jeune homme qui continua à l'injurier comme personne ne l'avait jamais fait. Les hommes de l'équipage, réunis en groupe et horrifiés, regardaient de tous leurs yeux, écoutaient de toutes leurs oreilles. Les chasseurs de phoques sortirent précipitamment à leur tour, tandis que Leach, qui faisait bon marché de sa vie, me rappelait les prophètes de la Bible, lançant leurs malédictions sur les tyrans tout-puissants. En proie comme eux à un délire sacré qui confinait à la folie, ils prononçaient contre Lou Larsen une excommunication majeure, parcourant toute la gamme des accusations et l'invectivant tantôt au nom de Dieu et de ses saints, tantôt à grand renfort d'obscénité. Ses lèvres étaient maculées d'écume. Par moments, il suffoquait, bredouillait et ne pouvait plus articuler ses mots. Pendant ce temps, Lou Larsen, calme et impavide, toujours appuyé sur son coude et les yeux baissés, semblait perdu dans une infinie méditation. Ce bouillonnement sauvage de la vie, cette folle révolte déchaînée, ce défi furieux de la matière animée, excitait sa curiosité au plus haut point. À tout moment, moi et les autres, nous nous attendions à le voir bondir sur Leach et le massacrer. Mais tel n'était pas son caprice. Son cigare s'était éteint et il continuait à regarder silencieusement. Leach était arrivé au paroxysme d'une rage impuissante.
Cochon, salopard ! Répétait-il et hurlait-il de toute la force de ses poumons. Pourquoi ne descends-tu pas de ton perchoir pour venir me tuer, assassin ? Tue-moi si tu veux ! Qui t'en empêche ? Je n'ai pas peur de la mort ! Mieux vaut crever que vivre sur ton bateau. Viens donc, espèce de lâche. Tue-moi, tue-moi, tue-moi.
L'affaire en était à cette phase quand l'âme errante de Thomas Mugridge fit son entrée en scène. Jusque-là, il avait écouté et regardé de la porte de la cuisine. Il sortait maintenant de son antre sous prétexte de jeter des ordures par-dessus bord. En réalité, c'était pour assister à la tuerie qu'il jugeait imminente. Il eut un sourire mielleux à l'adresse de Lou Larsen, qui ne sembla pas le voir. Mais il ne perdit pas contenance et, se tournant vers Leach, déclara d'un ton de reproche.
« Quel langage ! C'est scandaleux !»
La fureur de Leach ne demeura plus impuissante. Elle avait enfin trouvé un déversoir. D'autant que, pour une fois, le cuisinier était sorti sans son couteau. Mugridge n'avait pas fini de parler que l'ancien mousse était sur lui et le terrassait. Par trois fois, il se releva et tenta de regagner sa cuisine. Trois fois, il fut renversé.
« Oh, mon Dieu !» hurlait-il. « au secours, faites quelque chose !»
Mais tout le monde riait aux éclats. C'était un soulagement général. La tragédie était terminée et la farce commençait. Chasseurs et matelots se bousculaient afin de mieux voir la raclée qui tombait sur le coq détesté. Moi-même, je me sentais infiniment joyeux. Oui, je l'avoue à ma honte, le traitement que Leach administrait à Thomas Mugridge, presque aussi terrible que celui que les mouchardages de Mugridge avaient valu à Johnson, me remplissait d'allégresse. Seule l'expression du visage de Lou Larsen ne s'était pas modifiée. Il avait gardé sa même posture et continuait à observer avec son calme imperturbable. Il était pareil au chimiste qui suit, avec attention, dans une cornue qui bout, le processus de l'expérience qu'il a mise en train. Qui sait si un mystère étonnant n'en sortira pas éclairci ? Tout continuait à se passer comme tout à l'heure dans la cabine. Thomas Mugridge cherchait inutilement à fuir et à se réfugier en rampant dans sa cuisine, ou dans un autre trou, et tentait sans succès de se protéger contre la pluie des coups qui s'abattaient sur lui avec une surprenante rapidité. Il était tourné et retourné sur toutes ses faces comme une girouette qui vire sous le vent. Au bout d'un moment, ivre de coups de poing et de coups de pied, il demeura inerte sur le pont. Personne n'intervint et Leach aurait pu le tuer, mais il jugea que sa vengeance était suffisante. Il abandonna sur place son ennemi anéanti, qui geignait et glapissait comme un petit chien. Ces deux affaires ne furent qu'un commencement dans le programme de la journée. Au début de l'après-midi, ce fut au tour de Smock et d'Anderson d'en venir aux mains, et on entendit une pétarade de coups de feu monter du poste d'arrière, alors que les quatre autres chasseurs de phoques se retiraient en hâte sur le pont. Par les trois escaliers, d'où s'élevait un nuage de fumée âcre produite par la poudre noire, Lou Larsen dégringola prestement vers le lieu du combat. Les bruits de bataille et des cris redoublèrent. Lou Larsen administra aux deux adversaires qui s'étaient mutuellement blessés une correction sévère pour s'être colletés avant la chasse malgré ses ordres. Les blessures, en fait, étaient sérieuses et Lou Larsen, la punition des deux hommes terminée, se mit à les panser avec les ressources d'une chirurgie rudimentaire. Je lui servis d'assistant. Pendant qu'il sondait, nettoyait et assainissait les trous et les déchirures produits par les balles, je vis les patients subir stoïquement tout le charcutage dont ils étaient l'objet, sans le secours d'aucune anesthésie et avec, comme seul remontant, un gobelet de whisky pur. Puis, au cours du quart de 4 heures, nouveau tumulte qui eut lieu au poste d'avant. Il fut provoqué, une fois de plus, par les bavardages et raconteurs qui avaient eu, pour effet, la dénonciation de Thomas Mugridge et la raclée administrée à Johnson par Lou Larsen. Du vacarme qu'on entendit, et à la vue des yeux pochés et des visages contusionnés, qui s'exhibèrent par la suite, il fut facile de conclure que les matelots s'étaient, les uns les autres, copieusement étriés. La journée se termina enfin par une rixe entre Johansen et Latimer, le chasseur maigre à l'allure de Yankee.
Elle eut pour cause les observations que Latimer fit au second sur les cris qu'il poussait pendant la nuit. Ce fut Johansen qui eut le dessous et qui reçut une pile peu ordinaire, mais sans résultat appréciable. La nuit suivante, alors qu'il dormait comme un bienheureux, il ne cessa en effet jusqu'au matin de revivre dans ses rêves son pugilat avec Latimer et de le scander de cris perçants. Je fus, quant à moi, oppressé de 1000 cauchemars. J'en avais vécu un tout au long de cette horrible journée. La brutalité avait succédé à la brutalité. C'était acquis, autour de moi, c'était appliqué froidement ou par emportement, sous les prétextes les plus futiles, à blesser, à estropier et à détruire. J'avais jusqu'à cette heure ignoré la bestialité humaine et ce dont elle était capable. Je n'avais jamais connu que des discussions à fleur de peau avec des gens bien élevés qui composaient ma société. Qu'étaient les piques que s'amusait à me décocher parfois mon ami Charles Fourutset, qui excellait dans l'épigramme. Les médisances spirituelles où se complaisaient derrière le dos l'un de l'autre les membres du cercle du bibelot. Le snob que j'étais hier, en se retournant sur sa couche entre deux cauchemars, découvrait avec effroi une face de la vie qui lui était demeurée jusque-là complètement inconnue, une brutalité insoupçonnée à laquelle s'adaptait beaucoup mieux que mes théories idéalistes la cynique philosophie matérialiste de Lou Larsen. Et je m'épouvantais de plus en plus à la pensée que j'étais sur une pente où je me sentais glisser malgré moi. Ces hommes qui assouvissaient sans aucune retenue leur mutuelle colère, qui, comme une chose toute naturelle, se bagarraient comme des forcenés et faisaient couler leur sang, à quoi m'entraînerait-il avec eux? À quelle ignoble dégradation n'étais-je pas destiné? La rossée infligée par Leach à Thomas Mugridge était, du point de vue de la pure morale, parfaitement répréhensible. J'en riais pourtant avec une satisfaction incommensurable. Et cela était, je ne l'ignorais pas, un péché dont seulement j'étais heureux. Je n'étais plus Humphrey Van Vweden, j'étais réellement Humphrey. Le mousse sur la goélette fantôme. Lou Larsen et tout l'équipage me marquaient de leur empreinte.